trentaine. Et on commence avec une bonne nouvelle. Julian Assange est libre. Il a quitté lundi le Royaume-Uni à bord d'un avion, a déclaré l'organisation Wikileaks. Assange et la justice américaine ont négocié un accord de plaider coupable, stipulant que le journaliste doit comparaître mercredi devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, qui est un territoire américain du Pacifique, selon des documents judiciaires rendus publics dans la nuit de lundi à mardi. Il est désormais poursuivi pour complot, pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale. Et donc, Julian Assange devrait plaider coupable de ce seul chef d'accusation, selon ses documents judiciaires. Il devrait être condamné à 62 mois de prison, déjà purgé en détention provisoire à Londres, ce qui lui permettrait de regagner libre son Australie natale. Cet accord met un terme à une saga de près de 14 années, pendant lesquelles Assange risquait la prison à vie aux États-Unis. Julian Assange était poursuivi pour avoir rendu public à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Parmi ces documents figurait une vidéo montrant des civils, dont deux journalistes de l'agence Reuters, tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007. On revient à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine avec une enquête publique concernant le projet de LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax qui est repoussé. Ces jours-ci devait en effet démarrer l'enquête publique environnementale sur les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, les fameuses AFSB. Eh bien, trois jours avant la date de démarrage prévue, cette enquête a été reportée. Elle commencera finalement le 14 juillet, en plein mois d'été, lorsque les habitants des communes concernées partent en vacances, dénonce le collectif LGV Non Merci. Ce collectif organise dès samedi un événement à Cadojac. Ça s'appelle Hirondelle versus Tractopelle. Pourquoi les hirondelles ? Eh bien, parce que des spécimens de cette espèce protégée ont fait leur nid dans au moins une des maisons qui doivent être détruites pour le projet. Le Conseil national de protection de la nature a lui d'ores et déjà donné un avis négatif à la demande de destruction d'espèces végétales et animales sur le tracé. Je rappelle donc le rendez-vous ce samedi à la gare de Cadojac, c'est à 14h pour un jeu de pistes géant autour des gîtes à chauves-souris et la visite de lieux naturalistes. Et puis il y aura à 18h la distribution de l'eau pour les gagnants, un barbecue et des chants. Hier, le conseil départemental de Gironde s'est réuni pour voter son compte administratif 2023. La situation financière à la fin 2023 est à l'équilibre, a déclaré Jean-Luc Glaise, le président du département. On a su gérer correctement, fin de citation. Mais les finances pour 2024 sont dans une situation dramatique avec des dépenses de fonctionnement qui augmentent et des recettes qui baissent. Les élus de gauche au département ont pointé la menace de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir qui se traduirait par un assèchement des services publics en les privant de ressources. Et puis en ce moment même, une conférence de presse a lieu sur la place de la Bourse. Conférence de presse contre l'extrême droite. L'extrême droite doit reculer, pas nos droits, à l'initiative d'un collectif qui regroupe des syndicats, la CGT, la FSU, Solidaire, le syndicat lycéen Fidèle, des collectifs également ou associations, l'Assemblée Générale Féministe, le Planning Familial, la CIMAD, RESF, ATTAC, SOS Racisme, la Ligue des Droits de l'Homme ou encore les États Généraux des Migrations. On les entendra demain midi dans notre émission dans le plat de Résistance. Midi 14 sur la clé des ondes, alors plus que 5 jours avant le premier tour des élections législatives anticipées, dont seulement 3,5 de campagne, puisque la campagne s'arrêtera vendredi à 23h59. On rappelle qu'il est encore possible de faire une procuration si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote dimanche, et que pour ça il faut aller sur le site maprocuration.gouv.fr ou bien directement en commissariat de police ou en gendarmerie. Nous, ce midi, on fait un focus sur la première circonscription de Gironde, celle dans laquelle se trouve la clé des ondes, ici dans le nord de Bordeaux. La circonscription, elle va des Chartrons jusqu'au Bouscat, en passant par Codéran, Grand Parc, Les Aubiers, Bacalan. Et pour en parler, j'accueille d'abord Céline Papin. Bonjour Céline, prenez un micro, attrapez-le, tirez-le, ce sera plus simple.
Bonjour.
Bonjour Céline, vous êtes donc la candidate du nouveau Front Populaire sur la première circonscription de Gironde. À vos côtés, on va voir deux habitantes de la circo. D'abord Morty, plus connue, alors pardon, j'ai paumé mes notes, Mohamed Saoudi, bonjour à toi.
Bonjour.
Plus connu donc sous le nom de Morty. Tu habites au Grand Parc et tu es membre de l'association Diamant des Cités.
Exactement.
Et puis on aura également par téléphone Daniela da Fonseca Gomes Nazaré qui est habitante des Aubiers. Pour commencer, Céline Papin, peut-être nous dire un peu qui vous êtes, quel est votre parcours et comment vous êtes arrivée à cette candidature sur cette première circonscription, Céline Papin.
Oui, alors quelques mots peut-être pour que l'on me connaisse un peu mieux. Moi, j'habite dans le secteur de la circonscription. Hein. J'habite à Ginecourt depuis les débuts du quartier. Je suis bordelaise depuis une vingtaine d'années maintenant. J'y suis arrivée pour mes études. À la base, je suis d'origine vendéenne. Je suis fille d'ouvrier. Je viens d'un milieu donc plutôt très modeste où on comptait les sous à la fin du mois. Et puis, grâce aux études que j'ai pu faire en étant boursière, je suis arrivée à Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, et c'est dans cette ville que je me suis installée par la suite. J'ai travaillé auprès des élus écologistes pendant un certain nombre d'années à Bordeaux Métropole, suite à une petite annonce publiée sur Pôle emploi à l'époque. Et donc forcément, mon engagement s'est conforté au fil des ans. Et donc je suis dans l'équipe municipale bordelaise aujourd'hui depuis 2020, en tant qu'adjointe en charge des relations internationales. Et donc pourquoi je suis candidate
En un mot, les relations internationales, en quoi ça consiste adjointe en charge des relations internationales dans une mairie comme Bordeaux ?
Vous avez raison, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs volets. Il y a évidemment un volet rayonnement de la ville de Bordeaux, hein, sur le plan économique, sur le plan de nos filières économiques notamment, mais aussi un volet solidarité internationale très important. Nous avons de très nombreux jumelages et puis des liens historiques, notamment avec le continent africain. Donc, ça consiste à des soutiens, à des projets de développement, notamment.
Très bien. Et donc, cette élection, alors c'est vrai que Macron a surpris tout le monde avec cette dissolution. Il y a 2 ans, c'était Catherine Sestari, qui était aussi écolo, qui était candidate sur cette circonscription. Pourquoi vous, cette année ?
Alors c'est vrai que ça s'est fait très très vite, donc il a fallu désigner rapidement un candidat. Alors déjà parce que c'est ma circonscription, donc je ne pouvais pas me résoudre, en tout cas à avoir un parachutage ou à voir cette circonscription aussi potentiellement basculer au RN ou poursuivre avec la politique macroniste. Mmh. Donc j'avais vraiment ce souhait de porter ce projet qui plus est d'union de toute la gauche, et comme il a fallu aussi décider rapidement, je pense que ma candidature réunissait un certain de critères qui ont été rapidement validés par mes collègues.
Des critères, c'est-à-dire de
Des critères de disponibilité, c'est aussi, aussi simple que ça. Hein. Une campagne express, c'est aussi ça. Hein. Mmh. C'est être en capacité de pouvoir rapidement se mobiliser pour faire campagne. Des critères aussi de connaissance des institutions, d'ancrage territorial. Mmh. Voilà, de personnalité aussi. Je pense que je suis une personnalité qui, globalement, échange assez facilement avec l'ensemble de mes partenaires de gauche. Donc,
Très bien. Peut-être un mot sur cette bannière, du coup, du nouveau Front Populaire. Comment vous avez vu ça ? Alors, il y avait la NUPES il y a 2 ans. Là, c'est arrivé très vite, cette volonté d'union. De quel œil, vous avez vu ça ? Le fait aussi de travailler avec des militants PS, insoumis, communistes sur la circonscription. Comment vous voyez ça ?
Alors c'est vrai qu'il y avait une première expérience avec la NUPES, donc les militants avaient déjà eu cette première habitude de travailler ensemble, donc c'est pas totalement nouveau. Je crois que déjà c'est une première victoire quand même de la gauche d'avoir réussi en à peine quelques jours d'avoir réussi à saisir pleinement le caractère historique de cette élection et d'avoir su se mettre autour de la table et d'avoir su décider de porter une candidature commune, un projet commun. Donc on peut s'en réjouir, et les militants sur le terrain, ça se passe très très bien, tout le monde est très très motivé et tout le monde est très pleinement conscient que là on travaille en fait, on travaille pour véritablement un moment historique et pour éviter de basculer dans le pire. Mmh.
Comment on fait campagne de manière aussi express là en 2 semaines, 2-3 semaines en comptant le deuxième tour? Est-ce que voilà, il y a des priorités qui sont mises en place? Est-ce que c'est les abstentionnistes? Est-ce que c'est, enfin voilà, comment on se dit qu'en 2 semaines on peut aller chercher une circo?
Alors déjà, on dort pas beaucoup. Non, en fait, les premiers jours, c'est vrai, ont été beaucoup dédiés à la partie très logistique, hein, d'organisation d'une élection, préparer les affiches, les professions de foi, le dépôt de la candidature. Ensuite, il faut organiser et coordonner la mobilisation, qui est très forte. Moi, je tiens vraiment à le souligner. Pour avoir fait plusieurs campagnes électorales, on voit cette fois-ci énormément de gens qui viennent se mobiliser, qui ont envie, pour la première fois, de tracter, de faire quelque chose pour agir. Donc c'est un enjeu de coordination aussi et de formation de ces nouveaux militants. Et puis après, comment on fait en campagne concrètement? Évidemment, on va au-devant des habitants au maximum, donc sur les lieux de rendez-vous classiques, hein, les marchés, les sorties d'école, les arrêts de tramway, par exemple. Effectivement, la difficulté, c'est qu'on a très peu de temps. Donc c'est vrai que toute la partie des réunions publiques, des choses peut-être un petit peu plus conséquentes en termes d'organisation, nous, on a choisi vraiment d'être au maximum sur le terrain et auprès des habitants, plutôt que d'aller voir toujours les mêmes, en quelque sorte, lors de réunions publiques.
Il y a un événement quand même qui a marqué la première semaine de campagne, donc la semaine dernière. C'est dans la nuit de vendredi à samedi, votre ex-conjoint qui tenait des tracts du Nouveau Front Populaire à la main, qui a été agressé par deux personnes, semble-t-il proche, en tout cas, à ce qu'ils ont pu dire du RN. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé et comment vous l'avez vécu aussi, cet événement ?
Oui, alors mon ex-conjoint, moi, il se trouve, il est aussi un militant écologiste depuis très longtemps. Et donc, il revenait de chez moi, puisqu'il avait déposé mon fils. Et il tenait des tracts du Nouveau Front Populaire à la main, mais pas pour tracter, mais simplement pour le lendemain en mettre dans les boîtes aux lettres de son immeuble. Et donc, il a croisé la route de deux individus autour de 23h qui ont vu les tracts et lui ont clairement demandé s'il était du Nouveau Front Populaire. Et puis, suite à sa réponse, ils lui ont dit que Jordan Bardella allait tous nous écraser, allait écraser cette bande de militants immigrationnistes et que ça allait commencer maintenant, et ils lui ont donné un coup de tête.
Donc il a déposé plainte, c'est ça ?
C'est ça, il a déposé plainte. Je pense que c'était important de marquer le coup. Je pense que ça traduit une violence désinhibée aujourd'hui. On a vraiment, et on le voit déjà dans le débat politique, hein, y compris au plus haut niveau, un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui se sentent autorisés de tenir des propos qui incitent, à mon sens, à la violence. Et ça peut se traduire sur le terrain pour nos militants à de la violence physique.
On va revenir bien sûr après sur tous les sujets que vous portez, que porte le Nouveau Front Populaire, mais quand même c'est vrai que c'est un contexte qui est hyper lourd et qu'on voit s'alourdir même de semaine, de jour en jour, avec les accusations d'antisémitisme contre le Nouveau Front Populaire, avec une campagne de caniveau quand même, on peut dire, et à l'inverse de ça, des gens du RN qui sont très peu inquiétés. On peut citer le site Street Press qui fait un gros travail d'aller montrer qui sont les candidats du Rassemblement National. Il y a notamment un article là dernièrement sur Louis-Joseph Péché, qui est un candidat antisémite de Ciotti et du RN en Meurthe-et-Moselle, qui utilisait un compte Twitter sous pseudo pour insulter des personnalités politiques avec des expressions comme « juif qui parle, bouche qui ment ». Il y a Mediapart aussi qui a identifié plus de 40 candidats du RN en roue libre sur les réseaux sociaux, je les cite, notamment en proférant des propos racistes. Comment vous survivez dans cette ambiance-là et comment vous expliquez aussi qu'il y ait un tel... un tel déferlement de la part des médias dans un sens et pas dans un autre, Céline Papin?
Je pense que clairement, on est identifié comme la cible de nos principaux concurrents, hein, qui ont choisi délibérément de nous attaquer presque davantage que le Rassemblement National, qui pourtant, selon nous, représente la première menace dans cette élection. Je pense que c'est très très regrettable, parce que ça conduit aussi à beaucoup de... Enfin, ça meurtrit beaucoup nos militants, hein, sur le terrain, qui vivent très douloureusement le fait d'être attaqués, notamment sur les sujets d'antisémitisme, quand on sait combien beaucoup d'entre eux sont engagés depuis très très longtemps sur ces sujets de lutte contre les discriminations. Je pense que ça traduit aussi l'enjeu de cette élection, qui est vraiment la sauvegarde de notre démocratie. Aujourd'hui, on doit pouvoir mener un débat démocratique dans l'apaisement, dans la confrontation d'idées, et on ne devrait pas sombrer dans ces attaques de caniveaux, et on devrait ne pas oublier nos valeurs républicaines dans ce débat. Donc moi, j'espère que les responsables des forces républicaines vont revenir un peu à la raison.
Comment on résiste à cette peur qui pourrait prendre les militants, en fait, tout simplement, après l'événement dont on a parlé de vendredi soir? Comment on résiste et comment on ne se fait pas intimider, en fait, dans cette situation-là?
Déjà, on prend des précautions. Nous, on a rappelé à nos militants les précautions d'usage que les anciens et historiques connaissent bien. Éviter de faire des actions de manière isolée, être prudent quand on fait des actions de collage le soir, par exemple. Et ensuite, je crois que la force, c'est le collectif. On est nombreux et nombreuses à s'élever contre tout cela. Et je crois que ça nous porte. On est conscient de l'importance de ce combat. Et donc, on ne lâchera pas.
Morty, comment tu sens, toi, cette ambiance-là ? Donc, je rappelle, tu vis au Grand Parc, à Sceaux Diamant des Cités. Comment est-ce que tu vis ce temps-là de campagne express et avec tout ce qui se passe sur les réseaux, dans les médias et dans les discussions aussi, sans doute, autour de toi ?
Écoute, c'est à l'image de ce que vivent tous les Français actuellement. On est très inquiets de cette montée du fascisme en France. Il faut dire que derrière, il y a des puissances qui soutiennent ces mouvements-là, et notamment certains médias. On ne va pas les citer, mais tout le monde les reconnaîtront. Moi, je trouve ça quand même très, très, très inquiétant. En tout cas, les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger dans nos quartiers sont très inquiètes de cette banalisation du propos raciste et extrême. Et j'espère qu'on arrivera, en tout cas, à leur faire barrage.
Alors, c'est vrai que j'ai voulu insister pour cette émission et pour parler de la première circonscription, insister sur les quartiers populaires, parce qu'on sait que c'est une circonscription qui est très diverse, avec à la fois Codéran et Les Aubiers, pour prendre peut-être les deux extrêmes. Ça représente en tout, il y a 160 000 habitants sur cette circo. Donc le député macroniste Thomas Cazenave avait gagné avec quelque chose comme 28 000 voix, je crois, en 2020. Et c'est un endroit où il y a de l'abstention forte, en tout cas c'est la plus forte de Bordeaux, plus de 60% à Grand Parc et Bacalan, plus de 70% aux Aubiers lors des dernières européennes, avec un enjeu donc sans doute à aller chercher des abstentionnistes dans ces quartiers qui pourraient voter en grande partie pour le nouveau Front Populaire. Morty, comment toi tu vois un peu les thématiques qui pourraient être qui pourraient attraper un peu les gens, les habitants de ces quartiers-là, comment eux ils perçoivent cette élection et ben voilà les revendications qu'ils et elles auraient envie qu'un député ou une députée porte pour eux à l'Assemblée nationale.
Ben en tout cas moi les retours que j'ai dans nos quartiers c'est que les gens se sentent abandonnés clairement par nos classes politiques mais à côté de ça on sent quand même un regain de volonté, une mobilisation qui est en train de se mettre en place pour inciter la jeunesse, les abstentionnistes à se déplacer vraiment pour faire front. Mmh.
Donc toi, par exemple, ton asso Diamant des Cités a pris position publiquement ?
Clairement, oui.
Pourquoi ? Alors, tu peux le rappeler peut-être et dire pourquoi vous avez pris cette position-là ?
Eh bien, parce que on est contre l'extrême droite, tout simplement. Hein. C'est-à-dire les propos discriminants de cette classe politique, on les subit déjà depuis X temps dans nos quartiers. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui, mais là, c'est vrai que la situation est très grave parce qu'aujourd'hui, ce discours est aux portes du pouvoir. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on fasse front commun contre l'extrême droite.
Et alors, vous n'avez pas seulement appelé à faire barrage à l'extrême droite, mais vous avez appelé, il me semble, à voter pour le nouveau Front Populaire. Quel espoir ça peut représenter, ça, pour toi et à Diamant des Cités ?
Eh bien, en fait, à un moment donné, on va mettre nos égos de côté. Le but, c'est vraiment le bien commun. Donc, pour notre bien à nous, il faut qu'on se mobilise vraiment contre l'extrême droite. Et là, vraiment, on est dans une situation extrême, vraiment. Et donc là, il y a plus à tergiverser, à chipoter sur tel ou tel point. Non, là, il faut vraiment qu'on se mette tous derrière le front populaire pour mettre de côté l'extrême droite.
Céline Papin, Morty parlait de sentiment d'abandon de décennies de gouvernement de droite aussi, peut-être de gauche, on pense à François Hollande. Comment est-ce que vous comprenez ça et est-ce qu'on peut en 2-3 semaines de campagne essayer d'aller convaincre des gens de faire confiance tout de même à une bannière de gauche, Céline Papin ?
Alors, je pense qu'il y a vraiment deux temps. Là, on est dans l'urgence des élections, mais comme je disais auparavant, en aparté amorti, je pense qu'il y aura un énorme travail à mener après le 7 juillet pour réconcilier les citoyens avec leurs représentants politiques. Il y a une crise démocratique profonde et elle n'est pas nouvelle dans ce pays. Après, je crois aussi qu'elle a été vraiment aggravée par la politique macroniste et aussi par l'attitude du président Macron qui, par deux fois, a été élu avec un certain nombre d'électeurs pour faire barrage au Rassemblement National, qui n'en a absolument pas tenu compte, qui a même été dans une autre direction, qui s'est droitisé de plus en plus. Et je crois que ça a conforté aussi cette colère et ce sentiment de ne pas être pris en compte de la part, à minima, de celles et ceux qui s'étaient exprimés à l'époque. Donc ça a accentué les fractures sociales. Donc ça aussi, je pense qu'il y a vraiment un... Il y aura vraiment un gros travail à faire après le 7 juillet. Aujourd'hui, nous, en tout cas, le Front Populaire, on a vraiment choisi de faire front commun pour porter aussi un message d'espoir. Il n'y a pas que le projet, aujourd'hui, comme alternative, le projet basé sur la haine de l'autre, du Rassemblement National, et le projet macroniste de ruissellement, mais qui en réalité est une forme de Robin des Bois à l'envers, c'est-à-dire finalement, on prend aux pauvres pour enrichir davantage ceux qui ont déjà beaucoup. Donc nous, on a vraiment un autre projet, un projet davantage axé sur effectivement la justice sociale, sur des avancées sociales et surtout un projet d'apaisement.
Il y a je ne sais pas si c'est le premier, le prioritaire, mais en tout cas un gros enjeu, c'est celui du logement, ici comme partout en réalité. Rue 89 Bordeaux rappelait dans un article publié là récemment sur leur site qu'il y a plus de 50 000 demandes de logement social qui restent en attente sur la métropole de Bordeaux, une augmentation de 30% des demandes sur la ville de Bordeaux. Et il y a 7 demandes en fait pour une seule attribution de logement social au niveau de la région actuellement. Emmanuel Coste, qui a été une responsable politique écolo et qui est aujourd'hui présidente de l'Union sociale pour l'habitat, qui fédère les organismes HLM de France. Elle distingue 3 types de programmes. L'un, celui de la majorité présidentielle, qui ne parle pas de logement, mais fait son mea culpa sur le fait de ne pas avoir traité ce sujet lors des dernières années. Un autre, celui du nouveau Front Populaire, qui reprend certaines des revendications de l'Union sociale pour l'habitat pour retrouver des ressources financières correctes et accompagner les programmes de construction et de rénovation énergétique. Et un troisième qui veut déroger aux principes constitutionnels et au cadre du droit, avec la préférence nationale pour l'attribution des logements sociaux et le fait de priver de logements sociaux les personnes qui auraient un casier judiciaire, c'est bien sûr celui du Rassemblement National. Que propose le nouveau Front Populaire sur ces questions-là est-ce que c'est pour vous un enjeu peut-être prioritaire, Céline Papin?
Oui, c'est un enjeu prioritaire parce que c'est une des principales problématiques que rencontrent nos concitoyens, et particulièrement dans les grandes métropoles. Je crois que déjà, un des premiers enjeux, ça va être de mettre aussi les moyens budgétaires pour relancer la politique de logement social, dans la construction notamment. On a eu des coupes budgétaires majeures ces dernières années par le gouvernement actuel, qui ont engendré une baisse de la construction de logement social, alors même qu'on en a davantage besoin. Donc ça va être un des premiers axes de notre travail. Ensuite, le deuxième axe, c'est bien sûr ne pas revenir sur la loi SRU et la loi, vous savez, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose aux communes, un certain nombre de communes, au moins 25% de logement social. Dans le projet présidentiel, dans les dernières semaines, il y avait des tentations de revenir là-dessus. Or, c'est absolument essentiel de ne pas revenir là-dessus et au contraire, d'imposer à ces communes pour davantage de mixité sociale et pour qu'elles puissent vraiment produire du logement pour les habitants. Également, parmi nos propositions, revenir évidemment sur la baisse des APL et voire même augmenter les allocations logement, puisque ça a été une des mesures qui a précarisé encore davantage les habitants et notamment les habitants dans le logement social. Et puis également revenir évidemment sur les dispositions en matière d'expulsion locative. Là aussi, le projet macroniste ces derniers mois a été, on va dire, dans une attitude clairement, désignant clairement les mal logés et les sans logement comme des cibles prioritaires de leur politique. Or aujourd'hui, le logement c'est le premier droit des habitants.
Et notamment avec le ministre du logement Kasbarian qui a fait beaucoup de mal là-dessus. Morty, c'est un sujet que tu connais bien, celui du logement.
Malheureusement, nous, on accompagne pas mal de sans-abri. On organise des maraudes alimentaires et vestimentaires chaque vendredi. Et on constate une augmentation hallucinante hein, des gens toujours précarisés et qui se retrouvent à la rue. Et d'autant plus, là, avec les JO, on a pas mal de sans-abri qui sont expulsés de la capitale, de Paris, et qu'on retrouve, nous, sur nos maraudes, ici à Bordeaux.
Et donc ce que propose le Nouveau Populaire, ça te semble aller dans le bon sens, en tout cas, une politique volontariste sur ce sujet-là ?
Bien sûr. Après, comme le disait Céline, aujourd'hui, il faut construire beaucoup plus de logements sociaux. Il faut mettre en place les moyens nécessaires. Et il faut dire une chose aussi, c'est que l'État dispose de pas mal de logements vacants qui, malheureusement, préfèrent les garder fermés plutôt que de les mettre à disposition, par exemple, d'associations qui pourraient y héberger des gens à la rue.
Et je crois que ça aussi, d'ailleurs, c'est dans le programme du Nouveau Front Populaire, le fait d'utiliser ces logements vacants. Un autre sujet, alors en discutant avec des militants, militantes qui font la campagne ces jours-ci, certains racontent comment des habitants, notamment à Grand Parc, votent Rassemblement National parce que, en fait, tout simplement, ils sont racistes, parce qu'ils veulent que leurs voisins qui sont racisés partent d'ici et qu'ils ne supportent plus. Il y a dans le Sud-Ouest aujourd'hui un édito qui revient sur un reportage d'Envoyé Spécial où un couple qui a longtemps vécu en HLM tient des propos racistes immondes devant une personne racisée et l'éditorialiste de Sud-Ouest commente en disant que cet épisode révèle l'échec cinglant des gouvernements précédents sur la politique de la ville, du logement et d'assimilation des populations immigrées. Fin de citation. Qu'est-ce que tu penses de comment tu vois tout ça, Morty, et ce fait que même dans nos quartiers, en fait, il y a ce racisme-là qui se répand. Conséquence ou pas d'une politique aussi du logement qui peut-être a mal anticipé ces questions-là ? Comment tu vois ça ?
Moi, je vois ça différemment. Sur le vote Rassemblement National dans les quartiers populaires, pour la plupart, c'est un vote de colère, vraiment, de colère contre les différentes politiques menées ces dernières années. Ensuite, pour la partie du discours raciste qui a été banalisé hein, ces dernières années, il faut dire que ce qu'on a en face, on a des lobbies super puissants, médiatiques, qui contrôlent des gros médias et malheureusement qui ne font plus de journalisme, mais de la propagande. Et il suffit de rester une journée devant sa télé, devant CNews ou BFM, pour devenir raciste, tout simplement. Et ça, c'est un constat général, et notamment dans nos quartiers. Et moi, finalement, je les plains, ces pauvres gens. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, on leur lave le cerveau chaque jour à la télé. Et c'est triste.
Très bien. Un mot de conclusion, Morty ?
Pour conclure, moi, je dirais aux gens, et notamment aux habitants des quartiers populaires, de se réveiller. Vraiment. Là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il faut se mobiliser, il faut se déplacer, il faut aller voter. Et il faut faire barrage au Front National. Et il faut voter pour le Front Populaire.
Céline Papin, un mot de conclusion ?
Je crois que Morty a bien résumé la situation. Je pense qu'il faut que les citoyens et les citoyennes se rendent bien compte qu'on est à un moment historique de bascule potentielle vers une majorité de l'extrême droite, ou en tout cas une majorité relative, c'est-à-dire un nombre déjà très conséquent, et donc qui porte un projet de société qui va tous et toutes nous menacer et menacer nos libertés publiques dès demain, et à commencer notamment par la liberté d'expression. Là, on a cette chance d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir exprimer nos idées. Qu'en sera-t-il demain ? Donc je crois que voilà, il faut se mobiliser pour préserver notre devise, liberté, égalité, fraternité.
Merci beaucoup Céline Papin, candidate du Nouveau Front Populaire sur la première circonscription de Gironde. Et on rappelle bien sûr à tous nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent aller voter, qu'ils peuvent demander des procurations aussi pour le 30 juin, donc c'est ce dimanche, et pour le 7 juillet. Merci beaucoup Morty du Grand Parc, de Diamant des Cités, d'être venu aussi discuter de tout ça.